Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui vous propose deux thèmes, à savoir clôture samedi dernier du congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, avec pour résultat l'élection de Félix Tshisekedi comme président de ses partis politiques. Ce congrès l'a aussi désigné candidat à la prochaine présidentielle pour le compte de l'UDPS. La RDC ne participera pas à la conférence humanitaire de Genève prévue le 13 avril prochain. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères l'a annoncé mardi dernier à Kinshasa dans une conférence de presse. Le gouvernement congolais dénonce ainsi la description de la situation humanitaire de la RDC telle que présentée par la communauté internationale. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans la tribune de la presse. Autour de cette table, nous avons Claude Moluchot, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle, et il est aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Bonsoir Claude Moluchot.
Et bonsoir Guy Maté.
Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa, il collabore aussi à casinfo.ca. Bonsoir Edmond Izouba.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir également à tous les fidèles auditeurs de Radio Capi à travers Tribune de la Presse.
Et Frédéric Ipani, il est correspondant du journal L'Observateur à Kikwit dans la province du Kwilu. Bonsoir Frédéric Ipani.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les confrères présents au studio avec vous.
Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette émission. Mais avant tout, nous allons écouter Duna Madimba dans cette revue de presse qu'il nous propose pour savoir comment la presse kinoise a traité l'actualité de la semaine. On l'écoute.
La MONUSCO et les élections de décembre prochain en République démocratique du Congo sont les deux sujets abondamment repris dans les médias de la RDC. Concernant la MONUSCO, la référence plus écrit, je cite, « En appelant au départ de la MONUSCO en 2020, Kinshasa défile au Conseil de sécurité. » En effet, le journal Le Potentiel écrit que le gouvernement congolais, par la bouche de son ministre des Affaires étrangères, Léonard Cheokitundu, a souhaité mardi dernier devant la presse le départ de la MONUSCO. Le journal fait remarquer que le ministre parle de 2020 comme la dernière année de la MONUSCO en RDC, ce qui pousse Le Potentiel à estimer que la MP n'est pas favorable à la tenue d'élections en décembre 2018 tant qu'elle n'est pas assurée d'aligner son autorité morale et que l'absence de la MONUSCO ouvrira un boulevard au pouvoir en place en vue de consolider le siège présidentiel de Joseph Kabila. Et au journal L'Avenir de commenter de son côté, je cite, « Avec la MONUSCO, le décompte est ouvert ». Dans le chapitre élections de décembre en RDC, Forum des As observe une vive controverse autour de la machine à voter. Le journal constate qu'à théoriquement 9 mois des élections, la machine à voter se trouve au centre d'une très vive polémique qui n'en finit pas. Machine à voter ou imprimante pour rationaliser le vote, s'interroge Le Quotidien. Autre interrogation de Forum des As, faut-il absolument aller aux élections du 23 décembre prochain avec cette machine et au journal de recommander aussi bien à la MP qu'à l'opposition de lever une option consensuelle. Et c'est ainsi que Le Potentiel sur ce sujet rapporte les activités d'une personnalité qui, selon le journal, travaille à se rendre présidentiable. Le Potentiel écrit que le premier ministre honoraire Adolphe Mouzito ratisse large pour se construire une stature de présidentiable. Important maillon de la société civile, écrit Le Potentiel, c'est vers les églises que Mouzito tend de plus en plus la main. Ainsi, après le cardinal Laurent Mosengo, archevêque de Kinshasa, renchérit le journal, Adolphe Mouzito est allé mercredi à la rencontre du chef de l'église protestante, le révérend André Bokundoa, et que la nouvelle patronne de la MONUSCO, Leila Zerougui, a été également dans l'agenda de l'ancien Premier ministre.
Merci à vous, Donald Madimba. Un commentaire, Claude Moluchot, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle et aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. C'est quoi l'actualité que vous voulez commenter ce soir?
Oui, c'est naturel, Guy Maté, l'actualité chez nous à la RTNC, parce que je suis de la RTNC. Et ça fait la joie parce que la décision prise par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est très très bien appréciée à la RTNC. Le fait qu'il ait nommé M. Ernest Kabila Ilunga en qualité de DG. Et en tout cas, tout le monde est dans la joie. Et la remise de reprise ce vendredi se passe très bien. Alors, les réactions fusent de partout, dans toutes les 26 provinces en tout cas, dans toutes les sous-stations, même dans les stations provinciales, on sent vraiment que tout le monde est très content parce que Ernest Ilunga Kabila, c'est quelqu'un qui est connu par les travailleurs, les cadres agents de la RTNC. Il a bien commencé, mais il a été stoppé à un certain niveau lorsqu'il était DGA, et DGA il s'est battu pour la redevance, mais je pense qu'à son retour à la RTNC, porteur d'espoir parce que les agents cadres de la RTNC vont toucher cette fois-ci cette prime de redevance très très attendue.
Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Il collabore aussi à casinfo.ca. Votre commentaire, n'est-ce pas, par rapport à l'actualité de cette semaine?
L'actualité a été dominée par ces points tels que figurés dans la revue de presse, mais aussi les journalistes ont été surpris d'avoir comme information l'arrestation d'Eliezer Tamboué, arrêté manu militari acheminé au parquet général de la
du
Gombe.
Magazine Tokomi Wapi.
Oui, du magazine Tokomi Wapi, qui passe dans plusieurs chaînes ici, mais également à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, ainsi de suite. Donc, il a été appréhendé, amené manu militari au parquet de la Gombe, pendant qu'il y avait une plainte du gouverneur du Kassai, Ngoy Kassanji, à l'endroit du CESAC. Nous tous nous attendions que les audiences se déroulent au niveau du CESAC, mais on a été surpris par cette arrestation et la manière peu orthodoxe du déroulement de l'audition, la phase de l'instruction au niveau de ce parquet. Et ce matin, nous avons appris encore mort d'alarme l'acheminement ou le transfert d'Eliezer Tamboué vers la prison centrale de Makala. C'est aujourd'hui en principe que Eliezer devait répondre devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons même cette invitation du CESAC, mais malheureusement, l'individu Eliezer se trouve à la prison centrale de Makala. Nous dénonçons la manière dont la phase d'instruction a été émaillée de beaucoup d'irrégularités. Eliezer a fait pratiquement plus de 21 heures d'audition. On a visualisé son émission, on a attendu la preuve parce que il semble qu'il y ait diffamation dans l'émission. Je ne sais pas. Nous avons eu l'avantage d'avoir les deux parties, les avocats, qui nous ont dévoilé effectivement qu'il y avait nécessité qu'Eliezer puisse présenter ses excuses. C'est que nous n'avons pas accepté, membres de la corporation, et les avocats d'Eliezer n'ont plus n'ont pas accepté. Eliezer n'a pas pu présenter ses excuses à Ngoy Kassanji comme il voulait pour abandonner les poursuites. Nous avons voulu aussi qu'Eliezer comparaisse un homme libre parce que sa fuite n'était pas à craindre. Pourquoi les mapper? Pourquoi les garder au cachot ou en prison actuellement? Donc nous avons protesté, nous sommes allés voir le procureur général de la République, on a vu l'avocat général de la République finalement. Il y a une décision qui a été prise en ce sens-là pour qu'il soit arrêté et étouffé, parce qu'on sait qu'Eliezer en liberté, beaucoup d'opprimés viendront participer encore à son émission. Donc nous déplorons cette manière de faire. Nous attendons à ce que les audiences soient fixées, comme le gouverneur dit, détenir des preuves des diffamations. Merci. Nous attendons que ce preuve soit présenté lors du procès, surtout que ce preuve-là n'a même pas été brandi devant les juges de l'instruction.
Merci Edmond Izouba. Frédéric Ipani, correspondant du journal L'Observateur à Kikwit dans la province du Kwilu. C'est quoi l'actualité qui domine aujourd'hui à Kikwit?
Eh bien, Guy Maté, encore une fois, l'actualité reste dominée par les dégâts énormes causés par la dernière pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi à mardi à Kikwit. Bon, pour ceux qui connaissent la ville de Kikwit, le tronçon Kanzombi, centre-ville, en passant par le pont Kwilu, n'est plus accessible à la population de ce coin. La route est totalement coupée au niveau de la chambre froide, pour ceux qui connaissent la ville. Les motocyclistes passent désormais par les plateaux d'ozone et les piétons par Mwangadibaya pour atteindre le centre-ville de Kikwit. Par contre, à la commune de Kazamba, Guimaté, c'est le cimetière qui a été éventré en partie par les eaux, laissant cercueil et corps dehors. Scène macabre qui n'a pu retenir l'attention, qui n'a pu retenir plutôt les larmes des habitants de cette partie de la ville. Le mal est totalement profond, qu'il faut absolument une solution pour sauver cette population de ces deux coins, envahie certainement par des érosions, favorisée par de nombreuses pluies qui s'abattent sur cette ville. J'ai parlé ce matin avec le maire de la ville qui m'a dit qu'il a trouvé une solution, une petite solution qui n'est pas la définitive. Il a remis quelques sacs de ciment et quelques pelles aux habitants de Kanzomi pour pouvoir lutter contre l'érosion qui menace justement cette partie. Tandis qu'à Kazamba, pour refaire le cimetière, il a aussi remis quelques pelles aux habitants de là pour pouvoir remettre le cercueil et le corps dans leur trou d'antan.
Merci.
Voilà un peu ce qu'il y a ici à Kikwit, Guimaté.
Merci Frédéric Ipani. Notre premier thème de ce soir, clôture samedi dernier du congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, avec pour résultat l'élection de Félix Tshisekedi comme président de ses partis politiques. Ce congrès l'a aussi désigné candidat à la prochaine présidentielle pour le compte de l'UDPS. La cérémonie a eu lieu samedi 31 mars dernier lors de la clôture du deuxième congrès de ses partis. Au cours de son discours, Félix Tshisekedi a promis de continuer l'œuvre de son prédécesseur Étienne Tshisekedi. Il s'est fixé comme objectif de gagner les élections à tous les niveaux. Pour ce faire, il appelle toutes les forces acquises au changement à se mettre ensemble pour l'alternance au sommet de l'État. Félix Tshisekedi dans cet extrait sélectionné par Paul Matendo.
Mon accession à la présidence de l'UDPS soulève naturellement la question de savoir quelle sera mon offre politique par rapport au parti. Celle-ci peut se résumer en trois objectifs et nos réformes se feront en fonction de ces objectifs. Le premier objectif consiste à organiser, consolider et élargir l'ancrage national du parti. Le second objectif que je m'assigne est naturellement la conquête du pouvoir au scrutin du 23 décembre prochain. D'aucuns accusent l'UDPS d'avoir mené durant des années un combat politique stérile et de ne pas accéder au pouvoir. Eh bien, cette fois-ci, aux fins de conquête effective du pouvoir, nous nourrissons les ambitions électorales légitimes, gagner haut la main la présidentielle. Je fais un appel solennel à toutes les forces acquises au changement de se mettre ensemble pour obtenir l'alternance démocratique.
Claude Molichot, journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise et RTNC en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Finalement, l'UDPS a tenu son congrès. Un pari gagné pour ses partis politiques.
Oui, c'est un pari gagné pour ces partis politiques, je peux le dire, mais il faut noter quelque chose. Guimaté, avant même la tenue de ce congrès, UDPS Limité avait sollicité une demande de fonds aux députés UDPS qui sont à l'Assemblée nationale, alors que au début de cette législature, ils ont exclu tous ces députés qui siègent à l'Assemblée nationale parce que semblait-il qu'il ne fallait pas que ces députés siègent. Ça, c'est de un. De deux, aujourd'hui, l'UDPS Limité demande, exige qu'on puisse changer M. Kalamba comme rapporteur du bureau de la CENI, alors qu'ils ont régné à Kalamba cette qualité-là depuis longtemps. Alors, nous disons que c'est des choses qui ne cadrent pas avec la rationalité. J'ai suivi Félix Tshilombo dans son discours, qu'il a dit qu'il va tout faire pour conquérir le pouvoir aux élections du 23 décembre 2018. Et quelque part, il a dit également qu'il n'est pas sûr qu'il y aura élection cette année et il va rejeter la machine, jusqu'à la dernière liste, la machine à voter. Bon, c'est pour dire que il y a contraste. Il y a contraste, pourquoi ? Parce que on ne sait pas ce que veut M. Tshilombo, si réellement s'il se prépare pour ces élections du 23 décembre 2018. On a comme l'impression que il ne veut pas qu'on ait aux élections maintenant. Il a un autre agenda. Selon ses mots, selon ses déclarations, selon son attitude quoi, vis-à-vis de la réalité. Moi, j'estime, si réellement, il veut qu'on aille aux élections, il veut qu'on amène les militants ou les combattants de l'UDPS, comme c'est comme ça qu'ils aiment bien les appeler, qui se préparent aux élections, il doit aller à la base. À la base, essayer un peu de sensibiliser comme fait Ramazan Shadari du PPRD, comme fait l'AFDC de Bahati Lukwebo, comme font toutes les forces politiques aujourd'hui, même les associations qui s'organisent en indépendant aujourd'hui pour ces élections. faut pas dire que non, entre-temps, je ne suis pas sûr qu'il y aura l'élection, je rejette la machine à voter et je vais conquérir le pouvoir par la voie des urnes. C'est contradictoire.
Et un autre
aspect, je termine par là peut-être, il qualifie le Tshibala, l'IDPS du peuple, c'est lui qui a formé la plateforme. Ouais.
Valentin
Moubaki, bien sûr, des accompagnateurs. Je l'ai suivi moi-même. Il a dit ce sont les accompagnateurs et ce ne sont pas les compagnons de Tshisekedi. Est-ce que Tshilombo, c'est un compagnon de Tshisekedi Mulumba?
Voilà,
moi,
et...
je ne pense pas. Il faut qu'il se pose des questions pour savoir pourquoi Ndanda Panangila a quitté l'IDPS. Pendant qu'il était encore, lui était encore, il avait moins de 10 ans à l'époque. Pourquoi Mbouakem a quitté l'IDPS? Professeur Iléo a quitté l'IDPS? Pourquoi Liao, parce que merci. Pourquoi Kiba Samaliba a quitté l'IDPS? Ce sont des interrogations qui valent.
On va revenir. Edmond Izouba.
Tshilombo Félix doit apprendre la politique.
On va revenir sur ça.
Il doit apprendre la politique.
Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Vous collaborez aussi avec akasinfo.ca. L'élection de Félix Tshisekedi, c'est, n'est-ce pas, l'une des retombées de ces congrès. Et comme président de l'UDPS, est-ce que vous pensez que c'était une surprise ou c'était prévisible, l'élection de Félix Tshisekedi?
Alors, si vous permettez de vous voler un peu quelques poussières de ces gones, je ne serai pas très à l'aise si je ne parle pas de ces cas de fonctionnaires de l'État. Ce sont des gens qui souffrent parce qu'il y a une méthode instaurée par les ministres actuels de la fonction publique qui s'est calfeutre derrière la réforme de l'administration. Nous avons appris par des sources que le ministre voulait organiser un concours de hauts fonctionnaires de l'État en violation flagrante de la loi portant statut des agents de carrière et services publics. En son chapitre 3, intitulé « Emploi, catégorie et grade » dans son article 17, il s'est clairement spécifié que le haut fonctionnaire de l'État, tel que le secrétaire général, directeur général et directeur, ne peuvent pas prendre part à un concours. Ces agents de carrière bénéficient plutôt d'une cotation venant
de la part...
Et donc
le ministre de la fonction publique va à l'encontre de ce principe.
Va à l'encontre de ce principe, une loi nouvellement promulguée par le président de la République.
Voilà, on ferme cette parenthèse-là.
Oui, que le député ouvre l'œil et les bancs afin que le ministre soit interpellé pour qu'il cesse cette opération qu'il veut faire pour pistonner ses camarades de parti politique.
L'élection de Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS, est-ce une surprise ou c'était prévisible?
Bon, c'était naturellement prévisible parce que, vous savez, depuis la mort d'Étienne Tshisekedi, UDPS incarne à travers Félix Tshisekedi un certain nombre de leadership. Hein, déjà sur le plan morphologique, la présence physique de Félix, il n'était pas encore secrétaire général, il était membre cadre comme tout autre, mais il représentait quelque chose. Donc, c'est lui qui remplaçait son père, tout en étant cadre. Maintenant que les élections arrivent, nous avons assisté d'abord, ce qui est une première dans l'histoire de partis politiques, UDPS organise un débat entre candidats, un débat qui était public. Les militants de l'UDPS ont assisté à cette concurrence d'idées entre candidats aux élections à l'UDPS. Effectivement, le jour des élections, plusieurs autres candidats ont désisté et ce qui a permis à ce que Félix Tshisekedi a été élu avec beaucoup nombre de voix au-delà des 93.
Rapport au Izouba, un mot par rapport au grief que Claude Moluchio, n'est-ce pas, formule à l'endroit de Félix. Il a évoqué son discours où il dit que Félix a parlé, n'est-ce pas, des Tshibala et des Valentin comme étant des accompagnateurs. Il relève le fait que l'UDPS avait demandé aux députés qui n'étaient plus reconnus, n'est-ce pas, par ses partis politiques de pouvoir cotiser pour ces congrès, mais aussi le fait que l'UDPS exige le remplacement de M. Kalamba à la CENI.
Je crois qu'il fallait passer par certaines méthodes pour permettre à ce que les acquis de l'UDPS demeurent au sein de partis politiques, parce que à l'époque nous avons même remarqué qu'il y avait certaines décisions qui ne cadraient pas avec les statuts même de l'UDPS. Nous avons déploré cela, nous avons même dénoncé et écrit, il y a eu certains écrits de journalistes pour dénoncer cette manière de faire d'Étienne Tshisekedi. Il n'était pas non plus un dieu, il n'était pas non plus un saint. Nous l'avons dénoncé. Pourquoi répugner tous ces députés de l'UDPS qui pouvaient aussi contribuer et faire quelque chose au sein de l'UDPS? Je crois que Félix Tshisekedi et Jean-Marc Aboud sont allés du bon côté de l'histoire de l'UDPS pour permettre à ce qu'il y ait le retour des brebis galaises au sein de partis politiques, parce que leur contribution était aussi attendue. Le jour où on a demandé la participation des militants et combattants de l'UDPS, je crois qu'il n'y a même pas eu 10 000 $. Donc il fallait quand même une main forte pour aboutir à ces organisations. Qualifier des accompagnateurs ou des compagnons, cela relève de la sémantique. C'est un débat, c'est relatif à Félix lui-même qui l'a déclaré. Mais moi, j'estime aussi quelque part que si Félix était dans une voie de la réunification de l'UDPS, il devrait quand même présenter certains signes d'humilité, parce que vous savez, de l'humilité.
Notamment à travers son discours.
À travers son discours, à travers tout ce qu'il tient comme langage, à travers tout ce qu'il tient comme propos, parce que l'UDPS est une en réalité. Je l'ai dit ici la fois dernière. Quand vous prenez UDPS qui bat ça, vous prenez toutes les formations de l'UDPS, vous allez vous en rendre compte qu'il n'existe pas UDPS Tshisekedi non plus qui bat ça, non plus Tshibala. Donc UDPS est une. Si aujourd'hui on veut la rendre indivisible, on doit faire venir les autres, mais dans un climat de paix et de convivialité.
Frédéric Ipani, correspondant du journal L'Observateur à Kikwit dans la province du Kwilu. Félix Tshisekedi se fixe comme objectif notamment l'unité de l'UDPS. Pourrait-il y parvenir? Est-ce qu'on peut espérer voir des figures telles que Valentin Moubaké, Albert Moleka et Belchika revenir au parti, à l'UDPS?
Guy Maté, je crois, si vous vous rappelez, la fois passée, je disais que il faut que l'UDPS arrive à prêcher la réconciliation. Il faut qu'il récupère le brebis galaise, comme eux-mêmes les appellent là-bas. Si on continue, si Félix continue avec ce genre de discours, je vous dis que ça va créer des problèmes à l'avenir. Même si aujourd'hui les Kaboum, les consorts ne voient pas ça, s'ils ne prêchent pas un bon langage, s'ils ne soignent pas leur langage de tous les jours, s'ils ont toujours ce langage belliqueux, eh bien, demain, ça sera des problèmes. Eux-mêmes vont le constater plus tard. L'unité, comme vous le dites, là, l'unité, c'est facile pour en avoir. Mais avec les discours qu'eux tiennent, les Kaboum, les Tshisekedi lui-même, Félix, est-ce qu'ils peuvent arriver facilement à cette unité du parti? Je crois que ça vaut la peine que ce groupe-là change de comportement, change de langage. Il faut qu'ils soient cléments, il faut qu'ils soient réconciliants, il faut qu'ils appellent tous ces gens qui sont à l'UDPS au niveau du Parlement, tous les anciens députés là. Ils ont les députés actuels qui sont au sein du Parlement, et même ceux qui sont dehors, et même ceux qui ne sont pas des députés, il faut qu'on les appelle, il faut que l'on cherche par tous les moyens à les récupérer pour que demain, qu'ils puissent faire le plein au sein de l'UDPS et éventuellement sortir comme députés. Mais s'ils continuent avec ce discours, ça, je pense, à mon avis, que ça ne pourra pas aller. Guy Maté, je savais aussi que, bon, que Tshisekedi serait élu président de l'UDPS, parce que j'ai entendu les discours précédents de Kaboum, j'ai entendu les amis de Tshisekedi dire que leur candidat était Félix Tshisekedi, et j'ai suivi aussi, si je ne m'abuse, les discours de Kaboum qui disait que ici au Congrès, on ne vient pas faire l'évaluation, mais c'est plutôt pour l'élection du président. Mais je me suis dit, mais est-ce qu'on devait passer directement à l'élection du président sans pouvoir évaluer le travail fait par les partis pendant toute cette période? Est-ce que à un moment donné, je me suis même dit, est-ce que l'élection de Tshisekedi, Félix, c'est une récompense à la famille ou c'est le fruit de son travail et de ce qu'il a fait pendant ces temps? Donc vous voyez que quelque part, il faut qu'on analyse bien les problèmes. Et vous savez aussi que tout à l'heure là, mon confrère Edmond a dit que il y avait eu débat, disons avant les congrès, les débats auxquels ont participé les militants de l'UDPS. Mais dis Mathieu, vous savez que chez nous ici, quand on a déjà au niveau de l'UDPS, quand ils ont déjà fixé l'opinion pour dire que le candidat sera, le candidat du parti sera Félix Tshisekedi. Le candidat au présidentiel de l'UDPS sera Félix Tshisekedi. Alors qui peut changer? Qu'il y ait débat ou qu'il n'y ait pas débat, c'est sûr que la personne qui a été élue là, disons,
c'était joué d'avance.
C'est ce qui va passer. C'est ce qui s'est passé exactement aussi.
Voilà, Claude Molichaud, la priorité, c'est la conquête des pouvoirs politiques. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui l'a dit. Il affirme qu'à peut-être 36 ans, le temps est arrivé pour que l'UDPS accède au pouvoir politique. Et à votre avis, quels sont les atouts que détient l'UDPS aujourd'hui pour que cet objectif soit atteint?
Moi, Claude Molichaud, je ne vois pas Félix Tshilombo accéder au pouvoir avec cette méthode de travail. Je ne vois pas vraiment qu'il puisse accéder. Parce que son père
méthode,
qui était...
Quelle méthode de travail père, parce qu'il vient de commencer. Il n'a pas, vous voulez juger sur base de quoi?
Il n'a pas commencé à travailler. Il a géré l'IDPS pendant qu'il n'était pas encore président de l'IDPS.
Non, mais ce n'est pas lui qui gère l'IDPS, c'est plutôt le secrétaire général.
Vous avez dit vous-même
Marc
que
Kabound.
C'était joué à l'avance. C'est-à-dire que Félix était déjà président de l'IDPS avant même les élections. C'était prévisible. C'est pour dire qu'il avait les rênes du pouvoir au sein du parti IDPS. Pendant qu'il n'était pas encore président de ce parti, avant même le congrès, c'est-à-dire.
Et donc pour vous, moi, je pense que Félix Tshisekedi n'a pas assez d'atouts pour amener l'UDPS au pouvoir
parce
politique.
Parce que son père, qui avait un peu d'atouts, n'a pas réussi en 2011 à accéder à la magistrature suprême. Mais lui, qui se recherche encore politiquement, parce qu'il n'a pas de tact politique, c'est un combattant.
Il n'a pas de tact politique, vous voulez dire quoi par là? Vous basez sur quels éléments?
Les Congolais pensent qu'avec cet engouement de Kinshasa...
N'est-ce pas un procès d'intention?
Ils pensent que cet engouement de Kinshasa... Le Congo, Kinshasa, la République démocratique du Congo, c'est 26 provinces. 25 plus la ville de Kinshasa, c'est 26. Je donne l'exemple. Si vous allez aujourd'hui à Kindu, au Maniema, ou dans toute la province du Maniema, il n'y a pas UDPS là-bas. Et lui, il se croit être président de la République déjà parce qu'il a été élu président. Non, il faut qu'il travaille et qu'il apprenne la politique. On a toujours dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. S'il continue avec cet orgueil, il n'arrivera pas à la majesté suprême. Moi, je pense que Tshisekedi a tout intérêt à fédérer, et comme Izouba l'a dit, comme Ipan il a dit à partir de Kikwit, qu'il puisse être humble et modeste et aller vers tous ces gens-là. Moi, c'est un conseil à prendre ou à laisser. Mais avec cette méthodologie qu'il a depuis toujours, parce que moi, je considère que Félix Tshisekedi était toujours président de l'UDPS avant qu'il ne soit élu. Et s'il ne parvient pas à changer de méthode de travail au sein de ses partis, c'est davantage la dislocation et c'est l'échec au total.
Edmond Izouba, Félix Tshisekedi se fixe comme objectif notamment d'accéder au pouvoir politique. Et vous venez de suivre Claude Molichaud qui estime que Félix n'a pas assez d'atouts, n'est-ce pas, pour amener l'UDPS au pouvoir politique.
Je n'approuve pas ces allégations qui sont d'ailleurs mensongères. Vous savez, nous avons connu le président de la République, Joseph Kabila. Il est arrivé au pouvoir. Il avait son âge, il avait aussi, c'est qu'on peut dire, son expertise. Mais après, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc, ce ne sont pas de propos à mettre dans le chef de Félix, tout en disant qu'il ne sera pas capable de diriger ce pays. C'est question seulement de se faire entourer des hommes capables. Donc, seul aussi, il ne sera pas dirigé. C'est ensemble, même s'il était intelligent. Donc, c'est comme ça. Donc,
La désignation de Félix comme candidat à la présidentielle aura quelles conséquences sur le paysage politique de la RDC?
Sur le paysage politique, ça crée une sorte de l'unanimité de grandes formations politiques de l'opposition aujourd'hui, parce que nous avons remarqué même dans le Congrès, il y avait la présence de l'UNC à travers Vital Kamerhe. Nous avons constaté également F. Bazaïba. Aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, on voit UDPS, on voit UNC et on voit le MLC. Donc moi je prêche pour la réunification du parti, un combat que le père Tshisekedi n'a pas eu à gagner, que pourra gagner le fils. Merci. Parce qu'il y a en dehors de Tshibala, en dehors de Kibasa Maliba, il y a les fondateurs de l'UDPS qui prétendent détenir les documents. Nous avons le Proté Lumbu qui est un fondateur de l'UDPS, l'un des 13 parlementaires. Il y a Lusanga Ngiele aujourd'hui qui est même à l'Assemblée nationale. Donc il pourrait y avoir des menaces sur le plan administratif qui pourrait empêcher également l'élection de l'UDPS comme étant candidat de l'UDPS, l'élection de Félix comme étant candidat de l'UDPS.
Frédéric Kipani, parmi les priorités de Félix, il y a aussi l'organisation de l'UDPS. Nous savons qu'au sein de l'UDPS, il y a des camps, hein, un camp qui est considéré comme étant un camp des radicaux, n'est-ce pas, des durs, et un autre camp considéré comme étant un camp des modérés. Va-t-il composer avec ces deux camps ou il va se débarrasser des durs pour ne garder que les modérés, à votre avis?
Oui, Guy, moi je pense que j'ai dit tout à l'heure là que il faut qu'il appelle tout le monde autour de lui, qu'il y ait des faucons, qu'il y ait des béniers ou quoi, tout ça, mais on appelle qu'il réussisse d'abord à appeler tout le monde autour de lui et discuter de l'avenir du parti. C'est là où il pourra voir avec qui composer exactement. Mais s'il reste dans son stade actuel avec son petit groupe là délimité, eh bien ça va toujours poser des problèmes. Ça va poser des problèmes et les autres d'ailleurs vont rendre, même ceux qui sont dehors risquent de rendre son gouvernement là délimité, de rendre ingouvernable, rendre donc son parti, son directoire là ingouvernable. Donc il ne pourra pas progresser. Donc il faut qu'il fasse la paix des braves avec ces gens-là, hein, qu'il essaie de discuter calmement pour arriver à unir les partis et à pouvoir travailler pour la conquête du pouvoir demain.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, la RDC ne participera pas à la conférence humanitaire de Genève prévue le 13 avril prochain. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a annoncé à Kinshasa dans une conférence de presse. Le gouvernement congolais dénonce ainsi la description de la situation humanitaire de la RDC telle que présentée par la communauté internationale. Leonard Cheikh-Okitundu affirme que cette décision a été notifiée au secrétaire général de l'ONU le 31 mars dernier. On l'écoute dans cet extrait proposé par Daniel Tambinzoni.
Dans ce document, lui avons fait part de notre étonnement de voir la République démocratique du Congo classée en L3, c'est-à-dire le niveau de gravité le plus élevé, catégorisation qui projette une image de catastrophe extrême et généralisée, assimilant la situation en RDC à certains pays du monde où se déroulent des guerres à haute intensité, engageant des armées de plusieurs pays avec des bombardements massifs et récurrents depuis de nombreuses années et accompagné d'un effondrement de l'État. Ce qui n'est absolument pas le cas en République démocratique du Congo, qui fait plutôt face à des attaques non conventionnelles et asymétriques des groupuscules terroristes et des groupes armés criminels. Certes, la situation humanitaire en RDC n'est pas pour autant moins préoccupante, mais l'exagération dans la description, pour le moins excessive, que l'on en fait, ne correspond nullement à la réalité de la situation sur le terrain. Elle est même contre-productive pour l'image de marque et l'attractivité de notre pays et agit comme repoussoir pour les investisseurs potentiels en République démocratique du Congo, ce qui va à l'encontre de l'intérêt majeur des populations congolaises.
Edmond Izouba, journaliste à la RTVS, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Vous collaborez aussi à casinfo.ca. Et comment vous comprenez cette position du gouvernement congolais?
C'est une position de quelqu'un qui est à genoux, en train de contempler comment il subit la force de la loi. Parce que vous devez vous rendre compte que les humanitaires qui se trouvent en République démocratique du Congo sont tous des étrangers. Pour la plupart, c'est sont eux qui viennent en aide en République démocratique du Congo. Et la situation telle que présentée, je donne raison au ministre quand il dit que la situation semble être différente d'autres pays, mais il doit comprendre que la situation à RDC est extrêmement différente parce qu'ici, c'est même plus que ça. Si nous avons la guerre en Syrie qui ne compte que des milliers de morts, on parle de 400 000, si nous avons de guerres en Birmanie et dans d'autres pays, mais ici nous avons des millions de morts. Et vous avez là où on tue, on massacre pratiquement chaque jour à travers, il y a des armes de combat, et également il y a des armes blanches. Et pour la plupart cas, dans ce coin, il n'y a ni des zones de santé, les centres de santé, et le mort, voir comment est-ce qu'ils sont enterrés, c'est de manière barbare. Donc, on prend des gens comme ça, on les enterre de gauche à droite, sans signifier qu'ici, on avait enterré quelqu'un et tout ça. Donc, vous voyez comment les choses se passent dans notre pays, comme si effectivement il y avait effondrement de l'État. L'État n'existait pas. Les choses ne se passent pas de manière organisée. D'où il y a nécessité de l'aide humanitaire et de ces agences humanitaires pour aider à ce que, après ces attaques, que ce soit ethnique, que ce soit asymétrique, que ce soit par les groupes armés, que ce gouvernement est incapable de vaincre, qu'il y ait une présence des humanitaires capables de protéger les populations civiles qui restent sans toucher, mais également ceux qui ont été touchés.
Et donc, vous ne comprenez pas la position du gouvernement congolais qui refuse de participer à cette conférence de Genève.
En tout cas, c'est l'insouciance, il faut considérer ça comme ça, de la situation sur place, parce que la population qui meurt chaque jour dans de foyers, dans de camps de réfugiés, n'a que besoin de la compassion de ce gouvernement.
Merci,
c'est
qu'il
ne se constate pas pour l'instant.
Claude Molichot, journaliste à la RTNC, à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. Des chiffres ont été avancés le 19 mars dernier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, après avoir examiné la situation humanitaire de la RDC, a noté qu'au moins 13 millions de personnes ont besoin d'aide, dont plus de 7 millions sont en situation d'insécurité alimentaire grave, et ce qui a poussé, n'est-ce pas, l'ONU à activer les niveaux les plus élevés des préparations aux situations d'urgence. Claude Molichot, la communauté internationale n'a-t-elle pas raison de tirer la sonnette d'alarme?
Oui, Guy Matédé, je dois d'abord apprendre à mon ami Edmond que ce ne sont pas les humanitaires qui sécurisent la population. C'est le gouvernement congolais qui sécurise les Congolais. Et ici, il y a un principe qui dit tout ce qui s'est fait sans moi, c'est fait contre moi. Donc, nous sommes dans un pays souverain. Le gouvernement congolais défend cette souveraineté. Le ministre n'a pas dit qu'il n'y a pas de problème sur le plan humanitaire. Non, il a reconnu que la situation humanitaire de la République démocratique du Congo n'est pas moins préoccupante, mais s'insurge contre cette dramatisation, cette exagération. C'est ça le problème. Il y a combien de missions humanitaires qui se sont effectuées ici chez nous? Et c'est vendredi d'ailleurs, aujourd'hui vendredi, il y a une mission qui arrive pour essayer un peu d'évaluer. Le gouvernement demande que des concertations, c'est ce que demande le gouvernement. Ce sont des partenaires, même la MONUSCO qui est là, qui se tape la poitrine. Non, la MONUSCO est venue comme partenaire. L'OCHA, il y a même un service au sein des Nations Unies qui fonctionne ici au Congo, c'est OCHA qui s'occupe des affaires humanitaires. Cette structure, cette agence produit des rapports chaque année. Et on tient compte de ces rapports. Pourquoi exagérer les choses? Il y a des difficultés dans des zones qui viennent d'être touchées par des conflits. C'est vrai, mais il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas exagérer.
Voilà, il faut pas, question de se concerter. Vous le dites, il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas exagérer. Mais pourquoi le gouvernement garde un certain mythisme, n'est-ce pas, sur les chiffres qu'il lui détient? Parce qu'il rejette les chiffres de la communauté internationale. Mais il ne présente pas non plus ces chiffres.
Non, le gouvernement a présenté les chiffres. Pourquoi?
Quels sont
pourquoi,
ces chiffres-là?
Pourquoi,
qui les a présentés?
Pourquoi,
qui? Parce qu'on a posé la même question à Mende, il n'a pas répondu.
Non,
on a posé la même question au ministre Bitakura. Il n'a pas répondu.
Non, c'est chez Okitundu qui a eu des rapports.
Il a évoqué quels chiffres?
Non, c'est quelque
parce
chose...
Parce qu'ici, on parle de 13 millions de personnes qui sont
exposées. C'est quelque chose qui a été avancé par le gouvernement congolais à travers les vice-premiers ministres et ministres d'affaires étrangères. Et jusqu'aujourd'hui, toutes les missions humanitaires qui arrivent doivent négocier, doivent se concerter avec le gouvernement congolais pour qu'on puisse tomber d'accord sur les modalités. On ne doit pas venir tout d'un coup comme ça. C'est comme si c'était un terrain conquis, ou soit nous sommes sous le protectorat, je ne sais pas si de quelle agence ou de quel système. Non, nous sommes un pays souverain. Ces gens-là doivent venir ici en partenaire et ils doivent collaborer avec le gouvernement congolais. C'est ça le principe même qui est consacré par la Charte des Nations Unies. On ne doit pas venir ici à un pays déjà
conflit. Il faut rappeler ici qu'il y a un cadre, n'est-ce pas, de concertation entre ces humanitaires et le gouvernement congolais. Donc, ils collaborent, ils sont partenaires.
Mais l'attitude de ces agences humanitaires, c'est comme s'ils viennent pour imposition. Moi, je pense que même la ministre des Droits humains a produit un rapport qui a été soumis aux partenaires sur le plan humanitaire.
Merci. Frédéric Sopani, correspondant du journal L'Observateur à Kikwit dans la province du Kwilu. Il y aurait eu, n'est-ce pas, de l'exagération dans l'appréciation de la communauté internationale. Selon certains humanitaires, on ne devait pas classer toute la RDC au niveau L3, un niveau sévère de la crise, parce que les humanitaires disent, certains humanitaires, n'est-ce pas, disent qu'il n'y a que quelques provinces qui sont concernées par ce niveau L3. Il s'agit du Sud Kivu, les Haut-Katanga, les Tanganyika et l'espace Kasaï, et non pas toute la RDC.
Oui, Guy Maté, j'ai suivi tout à l'heure là, les discours de chez Okitundu. Mais à mon avis, je pense que le gouvernement congolais, il vaut mieux que le gouvernement congolais se rende sur place à Genève, exprimer par exemple son ras-le-bol ou son désaccord et trouver éventuellement un compromis au lieu de laisser les autres discuter sur place et prendre des décisions sur le gouvernement. Rappelez-vous, Guy Maté, quand il y avait le contentieux belgo-congolais à l'époque du gouvernement Zaïrois là. Mais vous avez vu que au niveau du président de la République, Mobutu avait décidé de dépêcher quelques experts en Belgique pour discuter de ce contentieux. Et plus tard, il y a eu quand même des résultats. C'est la même chose. Je crois que malgré que le gouvernement soit en colère, mais il faut qu'ils acceptent de se rendre là-bas, discuter avec ces gens-là. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu une petite erreur, ce que j'appelle moi erreur. Les humanitaires, quand ils font leurs enquêtes, normalement, finalement, quand ils ont les chiffres, ils doivent partager ça avec le gouvernement en place, que de cacher ça et pour aller publier ça plus tard ailleurs. Vous voyez que maintenant, ça pose des problèmes. Je pense que chez Okitundu et les autres membres du gouvernement doivent accepter d'aller là-bas pour discuter de ces problèmes. C'est vrai qu'ils ont dit que le gouvernement congolais a dit que qu'ils disposaient d'un peu d'argent, ils pourront aider se déplacer. Bon, il n'y a pas d'inconvénient si le gouvernement se rend à Genève et trouve quelque chose comme complément au fonds dont ils disposent pour pouvoir aider les déplacés de guerre.
Merci,
donc
merci,
ça vaut la peine, à mon avis, que le gouvernement se rende là-bas.
Merci Edmond Izouba. En conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission, et c'est quoi la solution? Frédéric recommande que le gouvernement puisse se rendre à Genève.
La solution, c'est la prise en charge de ses propres victimes, de la population qui passe nuit à la belle étoile, qui passe nuit dans des conditions précaires, qui est exposé aujourd'hui à toutes sortes d'épidémies. Nous voulons assez que ce gouvernement qui se réclame souverain à travers les chaînes de télévision étrangères, à travers le point de presse, reste souverainiste jusqu'au bout. Parce que c'est ce qu'on a constaté réellement à l'extérieur du pays. C'est ça ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons pratiquement l'ensemble d'autorités, un régime complètement illégitime depuis de nombreuses années, mais qui n'arrive pas à quitter le pouvoir. Donc ça devient une sorte de direction de pays par défi, et voilà, maintenant tous les secteurs aujourd'hui ne semblent pas du tout connaître le moindre développement.
Claude Moulicho, votre conclusion.
Et ma conclusion, c'est que le gouvernement congolais est responsable, et les partenaires qui arrivent ici, il faut pas qu'ils viennent comme des affairistes, ils viennent avec l'argent et l'argent rentre d'où il est venu. Non, l'argent doit servir concrètement et ils doivent collaborer avec le gouvernement congolais pour une efficacité de l'action sur le terrain. Ici, je reprends également sur les dossiers de Tshilombo Félix. Il doit prendre la politique pour, s'il veut réellement qu'il soit un homme d'État, il doit apprendre la politique, parce qu'on a comme l'impression que c'est un stagiaire politique.
Merci, merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui était à la technique, et Donald Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.